VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 17h30 GMT du vendredi 12 mai 2017 au sommaire. Nouvelle grogne de militaires à Boaké et Abidjan, Côte d'Ivoire, au lendemain de l'annonce de la suspension de revendications liées à leur prime dite Ecomog. Nouvelle tragédie sur les routes, un accident au Burkina Faso fait au moins 18 morts et plusieurs blessés. 3 cas d'Ebola détectés dans le nord-est de la République démocratique du Congo. La polémique continue ici aux États-Unis après le limogeage du directeur du FBI James Comey par le président Donald Trump. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. La capitale ivoirienne Abidjan renoue avec la tension. Des militaires étaient descendus dans les rues suite à l'annonce de la renonciation de leurs revendications liées aux primes Ecomog. Le camp militaire de Galieni était entouré par les forces loyalistes cet après-midi. Et tout est parti ce matin de Boaké dans le centre du pays. Notre correspondante Narita Namasté revient sur les derniers développements.
Cet après-midi, il y avait un retour calme dans les différentes casernes, la caserne d'Akodo, le plus grand camp d'Abidjan, et le camp d'Alimé. Deux heures plus tard, les tirs ont repris, on ne sait pas trop pourquoi. Et nous avons constaté un mouvement de la sécurité présidentielle et de la garde républicaine boucler les différents périmètres de ces camps-là au niveau du plateau. Et les militaires viennent toujours les checkpoints qu'ils avaient mis depuis ce matin, mais les véhicules et les militaires de la garde républicaine sont autour du camp d'Alémy. Selon nos informations, le chef d'état-major et son agent se trouvent encore à l'intérieur du camp d'Alémy. Au niveau d'Akodo, les tirs ont cessé. Et si on fait ça, on n'entend plus les tirs sporadiques. Ils n'avaient pas barré la route qui déchire. Le boulevard qui passe juste devant le nouveau camp d'Akodo n'avait pas été barré. Parce que tout s'est passé à l'intérieur.
Qu'en est-il de Boaké, par exemple?
Ok, à Boaké, nous avons appris qu'il y a des discussions avec le colonel de 3e bataillon de Boaké. Il y a des discussions en cours. Mais pas plus, les jeunes sont toujours dans les camps avec des fusils. Et la fin de voir ce que ça va donner.
C'était Narita Namasté à Abidjan. Au Burkina Faso voisin, un grave accident a suscité l'émotion. Au moins 18 personnes ont été tuées tôt ce matin. Les détails avec vous au Bagassikoura.
L'accident a eu lieu vers 6 heures sur la route menant de la capitale Ouagadougou à Po, ville située vers la frontière du Ghana au sud du pays. D'après les autorités, un minibus est entré en collision avec un véhicule de transport de marchandises, faisant aussi 4 blessés. On ne connaît pas l'origine de l'accident, mais les routes du Burkina Faso sont la plupart en mauvais état. Les véhicules de transport mal entretenus roulant fréquemment en excès de vitesse. L'année dernière, presque à la même période, un accident similaire avait tué 24 personnes et fait une trentaine de blessés sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso à quelques kilomètres de Boromo à l'ouest du pays. Face à la multiplication des accidents, le ministère des Transports avait pris des mesures draconiennes imposant aux bus de plomber leurs boîtiers de vitesse.
Au Cameroun, une personne a été tuée, 6 blessés ce vendredi dans un double attentat suicide perpétré dans l'extrême nord du pays, cible des attaques du groupe djihadiste armé Boko Haram. Mais l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Les kamikazes sont 2 jeunes filles. Elles ont été aperçues par un membre du comité de vigilance vers 5h du matin. Aussitôt, elles ont fait exploser leur charge. Les 2 kamikazes et le membre du comité de vigilance sont décédés donc sur le champ. Information d'Emmanuel Jules Tap, le correspondant de VOA Afrique au Cameroun. Une épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'est déclarée dans le nord-est de la République démocratique du Congo, où elle a fait 3 morts depuis le 22 avril, a annoncé l'OMS dans un communiqué. Les détails avec Nathalie Barche.
Selon l'OMS, l'épidémie touche une zone de forêt équatoriale dans la province du Bas-Ouélé, frontalière de la Centrafrique. La dernière épidémie de virus Ebola en RDC remonte à 2014. Rapidement circonscrite, elle avait fait officiellement 49 morts. Dans une déclaration faite à la télévision publique, le ministre de la Santé congolais, le docteur Oli Ilunga Kalenga, a confirmé la survenue de la maladie tout en appelant la population à ne pas céder à la panique. La RDC vient de prendre toutes les dispositions utiles pour riposter promptement et efficacement à cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola, a-t-il assuré. L'OMS indique travailler en étroite collaboration avec les autorités congolaises pour faciliter le déploiement du matériel de protection et du personnel sur le terrain afin de renforcer la surveillance épidémiologique qui s'est déclarée dans une zone difficile d'accès.
En Guinée équatoriale, un leader de l'opposition a été condamné à 6 mois de prison pour injures graves envers le parti du président Teodoro Obiang au pouvoir depuis 37 ans. Un tribunal de Malabo a reconnu Gabriel C. Obiang Obono, chef du parti d'opposition citoyen pour l'innovation, coupable du délit d'injures graves envers le parti démocratique de Guinée équatoriale. Revenu de 13 ans d'exil en 2014, cet ex-lieutenant-colonel avait déjà été empêché de se présenter à la présidentielle d'avril 2016 parce qu'il n'avait pas vécu 5 années consécutives dans le pays. Quelques 67 Somaliens expulsés des États-Unis sont arrivés à Mogadiscio. Il s'agit pour la plupart de personnes dont les demandes d'asile ont été rejetées. Un des expulsés, interrogé par la Voix de l'Amérique, a indiqué que beaucoup d'entre eux sont entrés sur le territoire américain via le Mexique. C'est la troisième opération d'expulsion de masse de Somaliens depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence. Au Soudan, nouveau gouvernement dirigé pour la première fois. Depuis près de 30 ans, par un premier ministre, a été formé. Cette nouvelle équipe, dirigée par Bakri Hassan Saleh, a pour objectif de régler la crise économique et les multiples conflits avec les rebelles. Bakri Hassan Saleh, nommé le 1er mars premier ministre par le président Omar el-Béchir, qui garde néanmoins le pouvoir de nommer et de limoger les ministres. La fonction de premier ministre avait été supprimée en 1989 après le coup d'État ayant porté au pouvoir M. Bachir. En décembre 2016, les députés avaient voté en faveur du rétablissement de ce poste. Le président sud-soudanais Salva Kiir tente de rassurer. Il a indiqué ce vendredi que la population n'avait pas de raison de s'inquiéter 3 jours après le limogeage du très influent et redouté chef de l'armée Paul Malong. Le président Kiir a ajouté que la situation sécuritaire était normale. Le chef de l'État a présenté ce changement à la tête de l'armée de ce pays en pleine guerre civile comme une décision de routine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Suite des remous ici aux États-Unis, suite au limogeage du patron du FBI par Donald Trump, le président américain lance une menace à peine voilée à l'ex-directeur du FBI, James Comey, à qui il intime l'ordre de garder le silence. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Depuis qu'il a congédié brutalement le premier flic des États-Unis, Donald Trump n'a pas calmé le jeu ou même rassuré ses critiques. James Comey ferait bien d'espérer qu'il n'existe pas d'enregistrement de nos conversations avant qu'il ne fasse des révélations à la presse, a-t-il menacé sur son compte Twitter ce matin. Initialement, la raison officielle donnée au limogeage de James Comey était la façon dont il avait géré l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton en 2016 durant la campagne électorale. Mais le chef de l'État a déclaré à NBC que le limogeage était plus lié à la collusion supposée entre la Russie et certains membres du gouvernement Trump.
Look, he's a showboat, he's a grandstander.
La réalité de ses ingérences ne fait pas de doute. Les 6 plus hauts responsables du renseignement américain ont réaffirmé hier que la Russie avait bien tenté d'influencer les élections américaines.
La Commission européenne a annoncé qu'un entretien téléphonique aurait lieu dans la journée entre des hauts responsables européens et américains après que Bruxelles a réclamé des informations sur une éventuelle interdiction par les États-Unis des ordinateurs en cabine à bord des avions en provenance d'Europe. Mardi, un officiel américain avait indiqué que les autorités américaines envisageaient d'interdire les ordinateurs en cabine à bord des avions en provenance d'Europe, étendant ainsi une mesure en vigueur sur les vols arrivant de plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Un jeune Palestinien a été tué en Cisjordanie occupé par des heurts avec des soldats israéliens. Shahab Anidal Obeid, 20 ans, a été blessé par balle au cours d'une manifestation près du village de Nabi Saleh, au nord de Ramallah. et a succombé plus tard à ses blessures à l'hôpital. Au moins 17 personnes ont été tuées dans un attentat suicide visant un sénateur dans la province du Balochistan au Pakistan. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Selon un responsable hospitalier, le bilan initialement établi à 10 morts a grimpé à 17 morts et plus de 30 blessés. Le comité de l'ONU contre la torture, qui s'est penché pour la première fois sur la situation au Pakistan, s'est inquiété dans ses conclusions d'un recours fréquent à la torture par la police, l'armée et les agents de renseignement. Le comité a déploré dans son rapport rendu public ce vendredi que la police a régulièrement recours à la torture afin d'obtenir des aveux. Et puis, plus de 1200 civils et insurgés ont été évacués ce vendredi de deux quartiers de Damas, selon l'agence officielle Sana, rapprochant encore plus le régime syrien de son objectif d'éradiquer toute présence rebelle dans la capitale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique sur le continent, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
La Mauritanie fait son retour dans la zone de libre-échange ouest-africaine. Nouakchott vient de paraffer un accord avec la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il porte sur la libéralisation de la circulation des personnes et des biens entre le pays et les 15 États membres du bloc d'ici janvier prochain. L'accord devra être validé en juin à l'occasion du sommet de la CEDEAO. Au Nigeria, le Parlement a finalement approuvé au bout de 5 mois le budget ambitieux du président Mohamedou Buhari de plus de 7 000 milliards de naira, soit 23 milliards de dollars, afin de sortir le pays de la récession par une augmentation fragile de la production pétrolière et par un prêt d'1,5 milliard de dollars de la Banque mondiale. Le plan veut relancer la croissance, notamment grâce à de grands projets d'infrastructure. Alteo, l'un des plus importants groupes sucriers de Maurice, annonce une performance meilleure que celle escomptée. Ses profits avant impôt ont augmenté de 55% pour s'établir à près de 585 millions de roupies, soit environ 17 millions de dollars au cours des 3 premiers mois de cette année par rapport à la même période l'an dernier grâce à la hausse des prix de vente et à ses opérations en Afrique de l'Est. Les revenus du groupe ont accru de 21% pour atteindre 2,34 milliards de roupies.
On démarre la page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdulrahman, bonsoir à tous.
Première journée de la phase de poule de Ligue africaine des champions.
Et oui, 5 matchs sont au programme ce vendredi, à commencer par l'Espérance de Tunis qui reçoit les Congolais de l'AS Vita Club de Kinshasa. Et mauvais voyage tunisien pour les Congolais qui viennent d'être battus 3-1 ce vendredi soir. L'équipe entraînée par Hubert Velut qui va affronter les Mozambicains du Ferroviaro de Beira. Par contre, on va assister dans ce groupe au derby d'Ondourman entre les frères ennemis El Hilal et El Meher à Khartoum. Un match certainement explosif qui gardera son suspense jusqu'au bout. El Meher de Diego Garzito, ancien vainqueur de cette compétition, entend garder cette dynamique pour surprendre l'actuel leader du championnat soudanais El Hilal.
Super Sport contre Oroya AC pour démarrer la Coupe de la Confédération.
Composé pour la première fois de 4 poules, soit 16 équipes au total, la phase de groupe de cette compétition débute ce vendredi avec un seul match qui va mettre aux prises les Sud-Africains de Supersport aux Guinéens d'Oroya dans la poule D. Le club de Pretoria est classé 4e de son championnat. Des atouts pour arriver à bout des Guinéens qui, eux, dominent le championnat depuis 3 saisons. Dimanche, ce sera au tour du tenant du titre, le tout-puissant Mazembe, d'affronter les Gabonais du CF Moulana.
Le Burkina Faso reste maître à l'issue de la 3e étape du Tour du Bénin 2017.
Le Burkinabé Salfo Bikenda a remporté la 3e étape du Tour du Bénin, mais son compatriote Abdulaziz Nikema est lui toujours en jaune. Le Burkina Faso qui reste donc maître de cette compétition. Salfo Bikenda a devancé au sprint l'Ivoirien Bassirou Konté en 2h et 39 minutes. 4e étape demain, un critérium de 80 km. Autour de Porto-Novo.
Et San Antonio en finale de la conférence Ouest en basket NBA.
Et oui, San Antonio, pourtant privé de son meilleur marqueur, Kawhi Leonard, s'est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest en écrasant Houston 114-75 dans sa salle. Les Spurs qui affronteront dimanche en finale de conférence Golden State pour le titre 2017 de cette Conférence Ouest. Golden State, champion 2015 et vice-champion 2016, a atteint la finale de la conférence en 8 manches sans une seule défaite.
Merci beaucoup Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, des soldats sont à nouveau descendus dans les rues d'Abidjan et de Boaké en tirant des coups de feu en l'air pour marquer leur mécontentement après l'annonce par le gouvernement la veille de la fin des mutineries qui touchent la Côte d'Ivoire depuis le début de l'année. Blanche Sanou a joint par téléphone Julien Gauze, il est analyste politique ivoirien. Il nous donne sa lecture des événements.
Pour dire la vérité, personne n'est en mesure de dire avec exactitude de quoi il s'agit hein, au stade actuel. En fait, seulement qu'il y a eu un premier mouvement de protestation au sein de l'armée en janvier, qui s'est conclu par un accord qui n'a pas été rendu public, mais un accord à avec le gouvernement un certain montant devrait être payé par personne et le gouvernement aurait payé une partie seulement de cet argent comme convenu dans les accords top secret. Le papier récente devrait suivre un règlement échelonné par le gouvernement d'État qui semble-t-il n'ont pas été respecté. Et donc depuis quelques jours on avait des murmures, des rumeurs concernant des revendications portant sur ces sommes restantes par les militaires. Et voici deux jours, le gouvernement avait rendu public un communiqué nous informant publiquement, officiellement, que les militaires s'étaient engagés à ne pas faire de revendications violentes par rapport donc aux questions financières et que donc des discussions sans doute se poursuivrait. Le gouvernement a aussi annoncé des mesures d'amélioration des conditions de vie dans les casernes.
Est-ce uniquement la rébellion ou l'armée est-elle impliquée?
Toutes les armées ont été réintégrées avec des commandements unitaires. Lorsqu'on parle de chef d'état-major, le chef d'état-major commande aussi bien les militaires issus de l'ancienne rébellion que les militaires issus de la composante RDS. C'est entre vous, on ne fait pas des symboles pour dire voici des rebelles, voici des non-rebelles. Même s'il est vrai qu'à partir d'un certain moment, on peut faire la distinction comme ça, mais dans le fond, il y a l'armée ivoirienne, elle est une, et voilà, elle n'est pas homogène, mais elle est au moins unique, sans distinction entre les éléments.
À votre avis, quelles sont les solutions possibles pour une sortie de crise?
D'abord, éteindre le feu, c'est-à-dire donc calmer la contestation pour que les choses rentrent dans l'ordre. La deuxième proposition que je pense qu'on doit formuler, c'est de rendre public l'accord qui est signé, de sorte que toute la nation soit prise à témoin. La troisième solution, bien sûr, c'est d'exécuter scrupuleusement les engagements issus de cet accord.
C'était Julien Gauze, analyste politique ivoirien.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Trois jours de visite du vice-président chinois Li Yongxiao au Burundi. Une première dans les relations sino-burundaises. L'économie et les investissements chinois au Burundi étaient au centre des discussions. Reportage à Bujumbura de Christophe Kourounziza.
Nous avons de nombreux projets de développement avec la Chine qui continuent. La Chine a accepté de soutenir le Burundi. Parmi ces projets, nous allons prendre des dettes que nous allons payer plus tard. Mais d'autres projets seront des aides du gouvernement chinois. Mais un pays ne se développe pas avec seulement des aides. Il faut que le développement suive. Quand le Burundi a des difficultés, la Chine nous soutient et vice-versa. Dans notre projet de développement, la Chine a des réalisations à faire.
Conformément au consensus dégagé par nos deux chefs d'État, nous avons décidé d'élargir encore davantage la coopération amicale qui existe entre la Chine et le Burundi. Nous allons continuer à fournir des aides sans contrepartie, des aides budgétaires et des aides alimentaires au Burundi. Nous allons augmenter davantage le nombre de bourses gouvernementales proposées aux étudiants burundais. Nous allons offrir également davantage de stages de formation aux Burundais. Par ailleurs, nous allons également multiplier la formation technique et professionnelle dans votre pays. Nous allons également vous appuyer dans des projets tels que Centrale Hydraulique et d'autres projets de développement. Avant tout, une coopération gagnant-gagnant et mutuellement avantageuse.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Près de 2 ans après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, son application pose toujours problème. La situation marquée par la dégradation de la situation de la sécurité dans le nord et le centre du Mali s'accompagne d'une détérioration de la situation des droits de l'homme. Solange Nyamulisa a joint Florent Gel, directeur Afrique de la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, pour un état des lieux.
La situation au Mali est marquée par d'abord une insécurité grandissante qui n'a jamais atteint un tel niveau puisque l'année 2016 a marqué un doublement des actions terroristes, des attaques à l'encontre des populations civiles, mais aussi des forces des Nations Unies et des groupes armés entre eux. Depuis le début de l'année 2017, on compte déjà 150 morts qui sont principalement des groupes armés terroristes. Donc on sent une grande tension qui monte et d'ailleurs la mission des Nations Unies, la MINUSMA, est aujourd'hui la mission la plus dangereuse au monde, puisqu'en 2016, pas moins de 90 casques bleus ont déjà été tués. Tout ça se fait également sur fond d'un accord de paix, l'accord d'Alger, qui a peu évolué et donc qui contribue à une augmentation de la violence, puisque les solutions de la paix ne sont pas encore suffisamment opérationnelles pour produire des effets.
L'insécurité au Mali, quel enjeu pour les pays limitrophes ?
C'est un enjeu majeur, puisque évidemment l'insécurité aujourd'hui a tendance à se propager aux pays voisins. Je pense au Burkina, évidemment, au Niger, où il y a pas mal d'activisme. Il y a aussi des groupes armés qui se constituent et qui rejoignent souvent des groupes armés terroristes tels ACMI ou le nouveau groupe formé par Iyad Al-Ghali. Donc on voit évidemment des incidents se multiplier dans le nord du Burkina, à la frontière avec le Niger. Et cette instabilité grandissante au Mali constitue un facteur d'instabilité dans les autres pays de la sous-région.
Selon vous, que devrait faire d'une part l'État malien et d'autre part la communauté internationale pour résoudre la question sécuritaire dans le nord et centre du Mali et pourquoi pas dans les régions limitrophes ?
L'État malien devrait prendre d'abord un certain nombre d'actions qui, pour nous, sont de deux ordres. D'abord, faire extrêmement attention au comportement de l'armée malienne quand elle intervient auprès des populations locales, en particulier au centre et au nord du pays, pour faire en sorte que les opérations de lutte contre le terrorisme ne violent pas trop les droits humains et fassent en sorte que la population, du coup, se retourne contre l'armée malienne. L'objectif des opérations antiterroristes devrait être de conquérir le cœur et les esprits de ces populations et non pas les braquer contre eux, ce qui arrive malheureusement encore trop souvent. La deuxième action, c'est poursuivre une lutte contre l'impunité beaucoup plus résolue que ce qu'elle ne mène aujourd'hui. On a vu qu'il y avait le procès d'Aya Sanogo qui avait commencé, donc ça c'est un point extrêmement positif, mais les procès qui concernent le nord du pays, les crimes qui ont été commis, en particulier les crimes sexuels contre les populations civiles, ces procédures judiciaires n'avancent pas. Il faudrait pouvoir organiser des procès de ces auteurs des crimes les plus graves qui ont été commis pour que la population voit que justice pourra être rendue et ceux qui ont commis des exactions, eh bien il va falloir qu'ils rendent des comptes. La communauté internationale, de son côté, va devoir renouveler le mandat de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, dans quelques jours, quelques semaines.
C'était Florent Giel, directeur d'Afrique de la FIDH.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des problèmes d'infertilité.
De nombreux couples ne parviennent pas à faire des enfants pour des raisons biologiques et médicales. Nous verrons pourquoi avec le docteur Ernestine Bell, fondatrice de la clinique Odyssée à Douala au Cameroun.
Pour aider ces couples, il existe en Afrique des cliniques d'assistance à la procréation. Nous verrons ce qui s'y passe avec le docteur Guy St. John, gynécologue obstétricien au Cameroun.
Cependant, il est encore difficile de résoudre durablement le problème qui reste un tabou du point de vue social comme politique. De cela, nous en parlerons avec Doris Bonnet, anthropologue.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le système judiciaire en Gambie, longtemps accusé de servilité envers Yahya Jammeh, fait face à une forte pression de victimes de son régime réclamant justice après deux décennies de torture, meurtres et disparitions forcées. Les explications de Salwa Jafari.
Elles ont été réduites au silence pendant 22 ans, emprisonnées, torturées, certains portés disparus. Les victimes de Yahya Jammeh sont nombreuses. Maintenant que le régime est tombé, elles peuvent aujourd'hui demander que justice soit faite. Youssoufa a perdu l'usage de ses deux jambes quand une balle perdue l'a touché lors d'une manifestation estudiantine il y a 17 ans. 14 de ses camarades ont trouvé la mort ce jour-là.
Je veux que le nouveau gouvernement subventionne mon traitement. Je n'ai pas terminé mon traitement et je veux d'abord recouvrer ma santé, puis la justice.
Depuis la chute de Jammeh, plusieurs enquêtes sur les crimes de son régime ont été ouvertes et certains membres notoires des services de sécurité ont été mis sous les verrous. Mais pour un jeune gouvernement à court d'argent, cette bataille judiciaire est difficile. Selon Aboubakar Tambadou, ministre de la Justice, l'ensemble du système judiciaire doit être remis en question.
À ce stade, nous voulons nous concentrer sur la reconstruction d'un système de justice qui assurera non seulement des poursuites réussies, mais en même temps garantira des droits équitables pour les plaignants.
En mars dernier, Malé, un jeune Gambien, a dû identifier le corps meurtri de son frère. Ce dernier a été tué après avoir été accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'État en 2014.
Je voudrais savoir comment mon frère a été tué, s'il avait été abattu ou s'il avait été battu à mort. Mais la question demeure telle qu'elle était, sans réponse, et c'est quelque chose qui me dérange. Si la justice tarde, la douleur, elle, est toujours là.
Pour beaucoup de Gambiens, la page sombre des années Jammeh n'est pas encore tournée. Mais le pays avance. Il y a 5 mois encore, des appels à la justice comme cela étaient encore tabous.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Thank you.
C'est sur ce joli titre de Viviane qu'on se quitte. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde, il y avait Georges Léonard Sagnon, console Nick Ivanov et présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Au revoir.